Dans un de ses suttas, le Bouddha exhorte ses disciples en disant trois choses. Faites le bien, évitez de faire le mal, purifiez votre esprit. Faites le bien, c'est-à-dire faites-vous du bien. C'est pas tellement une charité chrétienne liée à la notion du devoir que la constatation que lorsque je fais le bien, ça me fait du bien. Lorsque le cœur est ouvert, généreux, simple, que la voix est tendre et douce plutôt que dure et exigeante. Quand je suis porteur de concorde plutôt que de séparation. Ah, comment est le corps? Comment est le mental? Comment est le cœur? Ça nous fait simplement du bien. Donc, faire le bien et remarquer quand, ok, ce que je viens de faire, ce que je suis en train de faire, c'est bon. Éviter de faire le mal, c'est le contraire. Et nous évitons de faire le mal quand nous pouvons. Parce que de nouveau, non pas par tension ou parce que je veux absolument être une bonne fille, mais parce que c'est juste simple et bon pour moi et pour l'autre. Et alors, il y a cette retenue, je retiens certaines paroles qui voudraient se dire, certains actes qui voudraient se faire. C'est Joseph Goldstein qui disait, lorsque vous avez un élan de générosité, allez-y, ne pensez pas. Parce que souvent, il y a un élan de générosité, puis après, il y a la pensée qui vient, et puis vous avez remarqué, ça arrive. Donc, faites le bien, évitez de faire le mal. Et purifiez l'esprit. Parce que si nous pouvions faire le bien et éviter de faire le mal, ici, maintenant, toujours, nous ne serions pas là à méditer. Il se trouve que à cause de ce chaos, comme dit Matthieu Ricard, ce chaos de l'ignorance, ou que le Bouddha nomme ignorance, nous ne faisons pas toujours le bien et nous n'arrivons pas toujours à éviter de faire le mal. Que ce soit par rapport à nous-mêmes ou par rapport à l'autre. Et l'exercice de la méditation, en développant la pleine conscience, nous fait voir comment nous rajoutons la souffrance à la souffrance. L'expérience, c'est l'expérience. Lorsque nous sommes là et que l'expérience est désagréable. Si nous contemplons vraiment, il y a juste une expérience désagréable. C'est juste désagréable, rien d'autre. Pour purifier l'esprit, nous employons ce qu'on appelle sati, la pleine conscience. Et la pleine conscience a un pouvoir purificateur. Le Bouddha a dit comme le couteau a le pouvoir de couper, la pleine conscience a le pouvoir de purifier l'esprit. Ça n'est pas un idéal ou une idée ou un... C'est du réel. Je peux empiriquement vérifier que si je fais l'effort d'être en pleine conscience, si je développe cette compétence, l'esprit se purifie. Et alors, nous arrêtons un processus aveugle. C'est celui qui consiste à nous lamenter. Le Bouddha a parlé de la libération, de surmonter les pleurs et les lamentations. Nous nous désolons, que ce soit pour nous ou pour l'autre, parce que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas que l'instant tel qu'il est, c'est le réel, et que notre tâche, ça n'est pas d'évaluer ce réel, mais c'est de le voir et de l'accueillir et de sentir à quel point je ne suis au fond pas l'expérience, de le lâcher. La connaissance du qui suis-je est indispensable, non pas pour que je me connaisse moi-même, mais pour que je me lâche moi-même. Parce que rien n'est meilleur que l'expérience de l'abandon. Un corps et un esprit humain ne peut rien connaître de meilleur que l'abandon. Toute expérience saisie, valorisée, même la plus bénéfique, la plus extatique, est conditionnée. L'abandon, il est inconditionné, ou il est tout proche de l'inconditionné. J'aimerais vous lire dans le texte comment le Bouddha parle de cette pleine conscience. Il y a quatre fondements, je les ai déjà évoqués hier. Et il dit bhikkhu. Bhikkhu, ce sont les moines. Voilà le chemin direct pour la purification des êtres, pour surmonter les pleurs et les lamentations, pour la disparition de la douleur physique et de la détresse mentale, pour la réalisation du chemin de vérité, du nirvana. Ce chemin direct, c'est la contemplation des quatre fondements de la présence. Et quels sont ces quatre fondements? Ici et maintenant, bhikkhu, le disciple contemple son corps comme un corps, alerte, pleinement conscient et présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience, il y a un corps, est établie, indépendante, ne s'attachant à rien au monde. Le premier fondement, c'est le corps. Le deuxième, ici et maintenant, bhikkhu, le disciple contemple ses ressentis comme des ressentis, alerte, pleinement conscient et présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience, il y a des ressentis, est établie, indépendante, ne s'attachant à rien au monde. Et le troisième fondement, ici et maintenant, bhikkhu, le disciple contemple son esprit comme un esprit, alerte, pleinement conscient et présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience, il y a un esprit, est établie, indépendante, ne s'attachant à rien au monde. Et le quatrième fondement, c'est la contemplation des outils spirituels. Nous les contemplons de manière à pouvoir les lâcher et à simplement être ici et maintenant. Même plus besoin de la pleine conscience elle-même, elle agit sans que j'y pense, sans que je la conscientise. La disparition de la douleur physique, c'est quelque chose qui peut être témoigné par le Christ, par exemple. Le Christ sur la croix, qui a laissé son corps être crucifié pour montrer cette prépondérance de l'esprit sur le corps. Le corps va mourir, mais l'esprit peut appartenir à la conscience universelle. Il y a une possibilité pour notre conscience individuelle, liée au corps, de rejoindre ce qu'on appelle la vacuité, c'est-à-dire la conscience universelle, l'abandon au cosmos, à l'infini. Et c'est vrai que dans l'exercice de la méditation, quand le corps a mal, il fait drôlement mal. Et le moi n'aime franchement pas du tout ça. Ok, c'est le réel. Et nous pouvons venir avec la compassion. Je suis sensible à ma peine. Et nous pouvons sentir comment. Au début, la conscience peut accueillir, elle peut inclure, elle est plus ou moins, c'est pas que ce soit agréable, mais c'est ok. Et peu à peu, avec la souffrance physique, quand elle dure, il y a une contraction qui émerge. Et alors, la deuxième flèche dont le Bouddha a parlé, nous pouvons la conscientiser. Ok, il y a la douleur physique. Et il y a cette réactivité contre qui ne fait qu'une chose, c'est la rendre encore plus douloureuse. Vous avez remarqué? Alors, on a différents moyens. On peut aller à l'intérieur. Je me souviens, dans une retraite, j'avais très mal à un genou. Il n'y a pas si longtemps, j'avais de nouveau tout d'un coup très mal au genou. Maintenant, j'ai plus mal au genou. Ce sont des purifications. Les douleurs physiques sont des purifications karmiques. Le Bouddha l'a dit dans un sutta. Si vous avez tué dans votre vie, alors vous aurez de grandes douleurs physiques dans la suivante. À prendre avec des pincettes, mais c'est dit dans les textes. Il dit aussi juste dans le sutta d'après, celui qui s'accroche à la pensée, serait-ce une pensée de sagesse? Ne suis pas mes enseignements. Mais enfin, ça peut être simplement un moyen d'accepter. En tout cas, il y a des fois des douleurs physiques. Voilà que dans cette retraite-là, j'avais terriblement mal au genou. Alors, j'ai vu comment j'aimais pas avoir mal au genou, comment ça servait à rien de pas aimer, comment. Je pouvais aller ailleurs et puis je sentais plus la douleur. Et puis à un moment donné, ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment donné, je suis vraiment allée à l'intérieur et que je pouvais voir clairement la différence. Si je disais douleur, ça faisait une espèce de gros machin, franchement douloureux, à la limite du supportable. Et puis après, je lâchais le concept et puis j'allais vraiment dans le ressenti. Et c'était incroyable. Parce que ça faisait des petits picotements, des vibrations, il y avait presque des couleurs, ça faisait comme des light shows. C'était devenu passionnant. Et quand j'arrêtais de faire ça, puis que je disais, ah, douleur dans le genou, oh, ça me faisait un gros machin qui fait mal. La pleine conscience, si elle est vraiment dans l'intimité de l'expérience, il y a un lâcher-prise du moi. Et quand il y a un lâcher-prise du moi, il n'y a pas de souffrance. Et même la douleur physique peut être transcendée. Et quand le Bouddha parle de la disparition de la détresse mentale, il parle de tout ce travail à faire sur le lien entre les émotions perturbatrices et la pensée. Le désespoir n'est pas une expérience émotionnelle, c'est une emprise de la pensée qui crée un moi dévalorisé. Le désespoir est une pensée. La tristesse est une émotion, et c'est une émotion relativement bienfaisante. Si c'est la tristesse pure, c'est vrai, le monde est triste, il y a quelque chose de triste dans cette ignorance. C'est douloureux. Mais c'est ok. Première vérité, le monde est imparfait. Il ne sera jamais parfait. Ça n'est pas parce que nous méditons que tout à coup le monde va devenir parfait, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et j'aime bien prendre de nouveau l'image du Christ qui était quand même joliment accompli quand on l'a crucifié sur la croix et qui a eu son moment de doute. Père, m'as-tu abandonné ? Le doute. Ça n'est pas mon doute, ça n'est pas un problème que j'ai moi. C'est ce doute fondamental, c'est ce combat sacré entre le moi égoïste ou égocentré et la conscience universelle. Et tout de suite après, le Christ dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il y a eu ce doute, plouc, mais c'est notre expérience, je veux dire, c'est le Christ, c'est nous, plouc, et puis après, waouh, je lâche, ça lâche. Et c'est pour ça que dans l'exercice de la méditation, c'est tellement important de faire ce travail en lien aux pensées. Parce que nous sommes facilement dans des idéaux, dans des buts à atteindre. Dans le sens du devenir, dans l'oubli de l'impermanence. Et je viens faire de la méditation parce que je pense qu'une fois pour toutes, je vais être heureuse. La réalisation du chemin de vérité, c'est ici et maintenant. Dans le Satipatthana Sutta, c'est vraiment ça. La réalisation du chemin de vérité, c'est pas après. C'est maintenant. Est-ce que je contemple mon corps comme un corps? Juste maintenant. Est-ce que je suis ouverte à mes ressentis comme des ressentis? Et les ressentis, le Bouddha a parlé de trois choses. Agréable, désagréable, et neutre, ou ni l'un ni l'autre. Mais quand nous sommes assaillis par la colère ou l'angoisse ou la frustration, est-ce que la pleine conscience a le temps de dire « Ah ouais, tiens, c'est désagréable. » Ou quand tout à coup on tombe amoureux, « Ah tiens, ouais, c'est agréable. » Non, il y a cette saisie conceptuelle immédiate. C'est ce qui nous perd. Deuxième fondement de la présence. Le premier, c'est le corps. Ok, il y a un corps. Il a des endroits détendus, des endroits tendus. Il change. Je peux sentir cette respiration. C'est un merveilleux ancrage, la respiration. Parce que si vous conscientisez vraiment début, milieu, fin de l'inspire, début, milieu, fin de l'expire, en fait, c'est la vie. Quand nous naissons, nous inspirons. Et quand nous mourons, nous expirons. Et à chaque respiration, en petit, nous vivons ce que toute notre vie représente. Et ce deuxième fondement, c'est cette conscience de la qualité du cœur, ici et maintenant. Le cœur est sensible, vulnérable, et il ressent les choses comme agréables et désagréables. Et quand c'est agréable, nous pouvons voir l'élan qui fait que Ok, je veux bien. Et quand c'est désagréable, nous pouvons voir l'élan qui fait que surtout pas. Nous n'avons pas à prétendre dans l'exercice de la méditation, mais à voir. Et quand j'ai vu plusieurs fois, ah ouais, c'est agréable. Waouh! Waouh, c'est désagréable. Oh! Alors, finalement, que le mouvement se fasse ou non, peu importe. Parce que ça n'est plus le mouvement qui est important, c'est le fait de voir. Et je me décolle du monde conditionné pour entrer dans cette présence, dans cette compétence pleinement efficace de la pleine conscience. Donc c'est comme une nouvelle habitude à prendre. Je vois, c'est bon, je veux. C'est pas bon, je veux pas. À tous les niveaux, hein. Et quelquefois, ça se fait très vite et très inconsciemment. En fait, à chaque fois que dans l'exercice de l'assise, je bouge à peine le haut de l'épaule, pourquoi est-ce que j'ai bougé le haut de l'épaule? C'est parce qu'il y avait une petite tension, quelque chose que j'ai plus ou moins consciemment vu, et que ça a fait désagréable, je veux pas. Je n'ai rien vu. Mais ça s'est fait. Et nous pouvons amener une finesse de conscience sur tous ces mouvements qui se font, pas seulement les gros énormes. Là, je viens de bouger. Pourquoi? Parce que là, dans le bas du dos, c'est un peu... Ah là! Et bien sûr que quand on dit agréable, désagréable et neutre, c'est également toute la variété des émotions perturbatrices. Et elles sont puissantes. J'avais écrit dans une retraite, je déteste, j'ai en horreur cette présence à l'instant, ce renoncement. Je les déteste cordialement, pleinement, j'adore les détester. Et l'aversion se transforme en éclat de rire. La présence et moi, nous sommes bien d'accord, ouvrir son cœur à la haine permet d'en être totalement délivré. Et combien de fois nous nous contractons? Parce que nous sommes ici avec une certaine attente, en tout cas une aspiration. Et quand tout à coup je déteste cette expérience, je déteste cette retraite, j'aimerais juste qu'une chose être ailleurs. Il faut beaucoup de confiance pour pouvoir vraiment détester pleinement, sans tension, sans y croire. Et ce que je fais dans une retraite, je peux le faire après à l'extérieur. C'est ici que ça commence, parce que nous avons plus de concentration, plus de clarté. Et bien sûr que cet agréable, désagréable et neutre, il est lié aux six sens. Quand il y avait la mouche qui piquait, il y a toujours une mouche dans les retraites de méditation, parce que je les paye. Et là, j'ai été gâtée pour le même prix, j'en ai une qui pique. Elle pique sec, hein, vous avez vu, moi je l'ai eu longtemps cet après-midi, terrible. Ouais, c'est désagréable, je veux pas. Par rapport au sens du goût, on peut aussi sentir cet attrait, les choses que j'aime beaucoup. Heureusement, ici, il y a assez. Mais je me souviens, dans une retraite, il y avait beaucoup de monde, puis il y avait du houpma pour le dessert. Le houpma, c'est une semoule indienne avec des cashew nuts, mais trop bon. Et puis, j'étais derrière 10 personnes, puis je voyais le tas de houpma qui diminuait dramatiquement. Et puis, la personne devant moi s'est servie, je ne vous dis pas comment, malhonnêtement, et j'en ai plus eu du tout. Et Mais le pire, c'est qu'après, je l'ai vue débarrasser son assiette et elle en a jeté. Elle en avait trop pris. C'est passionnant de mettre vraiment la lumière de la conscience sur ces expériences. De les voir en même temps intimement, je ne cherche pas du tout à cacher, à prétendre, à espérer, rien, il y a juste ça. Chez elle, l'avidité, chez moi, la frustration. Ok. Et puis bien sûr, nous contemplons aussi les sentiments agréables, et dans une retraite, il y en a. Là, les sens sont exacerbés, quelquefois un son, c'est un délice. Des toutes petites choses qu'on ne remarque pas d'habitude, elles deviennent tout d'un coup très nettes, très belles. Le simple fait de se coucher dans nos lits quand nous sommes vraiment fatigués, l'agréable s'intensifie. Et on peut remarquer, waouh, c'est agréable. Ben là, j'ai pas envie que ça s'arrête, forcément. Tout bon. Et dans une retraite, c'est aussi important de conscientiser les moments de neutre. Il y en a beaucoup. Le neutre, ça peut être une forme d'indifférence, mais quand la conscience est alerte, le neutre est bon. Il est même très bon. Mais nous avons tellement l'habitude de nous vivre dans les intensités qu'au début, quand le neutre vient, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Mais quand c'est juste neutre, qu'il y a juste un pas qui se pose et puis après l'autre, et que c'est extrêmement simple, ça vaut la peine de reconnaître l'expérience à ce moment-là et de se la laisser goûter. Parce que le besoin de vivre dans les intensités est souvent l'expression de l'aveuglement. Et ça ne se voit pas. Et quand je suis en train de répéter pour la xème fois comme je suis quelqu'un de pas bon, ça donne une certaine intensité. Le moi préfère ça plutôt que rien. Autant dire que je suis quelqu'un de pas bon art que être avec du rien. C'est pour ça que le silence est quelquefois menaçant. Manger en silence avec un groupe. Le moi, il n'y trouve pas son compte, non pas que profondément il n'y trouve pas son compte, profondément il y trouve totalement son compte, mais superficiellement il ne peut plus se dire de la manière habituelle. Et alors ça crée un tremblement. C'est passionnant de voir comment on préfère créer un moi nul qu'arrêter de créer. Le troisième fondement, c'est cette contemplation de l'esprit comme un esprit. Donc là, on pourrait dire que c'est la contemplation des pensées, mais les pensées n'émergent pas de rien. Pourquoi est-ce que dans une retraite, il y a beaucoup de pensées? Peut-être que c'est un peu parce qu'on s'ennuie. Comme il n'y a rien à faire, ça commence. Bien sûr que c'est aussi simplement parce que la conscience, la vitre se nettoie, elle n'est plus tout à fait aussi opaque, et je vois à quel point l'esprit est occupé. Dans le monde ordinaire, il est tout occupé, tout autant occupé, mais simplement je ne le vois pas. Et avec la pensée, il y a cinq manières de faire. Nous pouvons les conscientiser, le jugement, le passé, le futur, l'évaluation, quelquefois le discernement, peut-être souvent, qui est aussi cette qualité d'investigation, quand la pensée se met au service de l'instant pour demander mais quoi faire, comment être, ici et maintenant. Nous pouvons remplacer les pensées par des paroles de bienveillance ou de refuge. Mais nous pouvons aussi voir qu'est-ce qui a été à l'origine de ces pensées. Et quelquefois, c'est très clair. Quand j'ai très mal, par exemple, ça peut créer l'aversion et le doute. On l'a déjà vu. Certains le partageaient dans l'entretien de groupe. Ou quand les choses changent et que c'était mieux avant, la pensée s'en mêle. C'est ce changement de l'agréable au désagréable qu'il a créé. À chacun de voir qu'est-ce qui est à l'origine de la pensée. Quelquefois, c'est la peur, l'inquiétude, beaucoup, souvent. Et puis, une autre façon, c'est de simplement employer notre intelligence pour voir que ça fait 50 fois que je pense le même truc. Est-ce que c'est vraiment utile d'en rajouter encore? Le Bouddha donne une très belle image. Il donne l'image d'une femme magnifique qui a des beaux bijoux, une belle robe, et comme écharpe, elle a un chien crevé. Cette pensée qui vient squatter la conscience sans arrêt avec ces mêmes trucs obsessionnels. Donc nous pouvons juste avoir une réflexion. C'est pour ça qu'avec la pensée, si je dis commentaire et que je coupe tout, que je ne mets aucune conscience au contenu de la pensée, je ne peux pas employer cet outil-là. Alors que si je vois, ah ouais, ça cause de ça. Ok, je reviens au corps. Ah, inspire. Ah ouais, ça cause de ça. Ok. Inspire. Ah, c'est une très, très bonne manière de faire. Et le cinquième aspect dont le Bouddha a parlé, c'est la détermination. Quand nous avons bien vu comment la pensée nous coupe de l'instant, nous vole l'instant, nous disons non. Nous disons non. Et quand la pensée arrive, eh ben non. Et une autre, non. Vous pouvez faire ça, mais en jouant. Non pas avec aversion, avec sagesse. C'est un non sage. Le Bouddha prend l'image d'un homme ivre qui est en train de tout casser dans un bistrot. Et alors on lui saute dessus et on le terrasse. Pour la bonne cause. Je vous ai choisi trois paroles en lien à la pensée. L'une d'Ajahn Chah par rapport à l'impermanence. Si tu sais que toute chose est impermanente, tes pensées vont perdre peu à peu leur importance. Tu n'auras plus besoin de trop penser. Quand une pensée émergera, tout ce que tu auras besoin de dire, c'est « Ah, en voilà une autre !» Juste ça. Et l'autre, c'est « Deti Hilzum ». Il est des moments où je pense ma vie va complètement de travers. J'ai commis une faute quelque part. Mais cela n'est vrai que si l'on a en tête un modèle de vie particulier, en comparaison duquel la vie réelle, celle que je mène, paraît fautive. Et vous avez peut-être vu dans votre expérience comment tout à coup cette inquiétude du sens de la vie émerge. Et le dernier, c'est le Bouddha. La pensée qui engendre ce sens du devenir. Je ne peux pas être vraiment posé dans l'instant. Il dit, concevoir est une maladie, une tumeur, un aiguillon empoisonné. En allant au-delà des concepts, on est appelé un sage en paix. Le sage en paix n'est pas né, il ne vieillit pas, il ne meurt pas. Il n'est pas ébranlé, il n'est pas agité, car il n'y a rien en lui qui le pousse à devenir. La pensée, par définition, est liée au devenir. Elle est liée au temps, elle est limitée par le moi, par la personnalité. Il n'empêche qu'elle peut être très utile. Les pensées de sagesse sont très utiles, mais parce qu'il y a la conscience de leurs limites. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces deux suttas du Bouddha en lien au karma. Une où il dit, le karma c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis la suivante, tout attachement à une pensée quelconque, c'est de l'aveuglement. Et nous sommes les deux. Nous sommes les deux. Quand je vous parle en vous parlant quoi. Je vous dis des choses. Mais derrière le fait que je dis ces choses, il y a cette conscience de leurs limites. C'est tellement important. Parce que c'est ça qui fait que je garde un pied dans la conscience universelle. Je sais que n'importe lequel d'entre vous le dirait autrement. Cette même chose, elle serait dite autrement. Et elle serait tout aussi bonne. L'aveuglement, c'est cette unilatéralité qui fait que tout d'un coup, je crois que je sais. Et ce qui est impermanent devient permanent. Ce qui est vulnérable devient invulnérable. Mais cette invulnérabilité de la rose du Petit Prince. Qui n'a rien à voir avec l'inébranlable paix d'un cœur délivré. Je vous lis une parole que j'ai écrite dans une retraite. La libération. Je sais que je sais que je ne sais pas. Clarté, obscurité, éveil, aveuglement. Je suis les contraires, mais au fond, ils sont complémentaires. Je suis les deux et je ne suis ni l'un ni l'autre. Qui suis-je? Et c'est vrai que par rapport à ce troisième fondement de la présence, où la pensée devient prédominante en lien avec l'émotionnel, la question est un très très bon outil. Juste de questionner et pas donner de réponse. Surtout pas donner de réponse. Quand je questionne, qui suis-je ou bien, mais quelle est l'expérience? Peut-être que je la reçois, peut-être pas, mais il y a cette manière de ne pas avoir besoin de réponse. Et ça habitue l'esprit à être alerte sans être dans la saisie. Dans le cours au miracle, si je ne vois rien tel que c'est maintenant, on peut vraiment dire que je ne vois rien. Je ne peux voir que ce qui est maintenant. Le choix n'est pas entre voir le passé et voir le présent. Le choix est simplement entre voir et ne pas voir. Donc, être dans le non-discernement et le voir, c'est l'éveil. Ça, c'est vraiment une clé. Parce que, en général, quand je suis dans le non-discernement, je ferme la conscience. Et je me coupe ainsi de tout ce que l'instant peut m'apporter comme richesse spirituelle. Et ça, ça vient de ce sens du bien et du mal. Je suis toujours en train de faire le tri. Ah ouais, ça c'est bien. Ah ouais, là c'est bien. Ouais, là c'est bon. Ouais. Et puis après, pouf. Ah non. Alors de voir comment ce bien et ce mal s'installent, c'est très important. Et cette jolie parole qui s'appelle le pinson. Lors de ma marche matinale, j'ai apprivoisé un pinson. D'abord, une ou deux fois, j'ai réussi à faire venir le pinson tout près. Il a pris une graine dans ma main et il s'est enfui comme un voleur. Et puis il s'est enhardi. Il en a pris deux ou trois et a rejoint sa branche. Et un jour, il est resté tranquille sur ma main, picorant et observant tout autour. Un matin, surprise, mon pinson picorait dans la main de quelqu'un d'autre. J'avais envie de dire « Monsieur, ce pinson et moi avons une relation. J'ai passé des heures à apprivoiser l'oiseau, debout dans la neige, avant qu'il ne descende de l'arbre et qu'il fasse confiance à ma main. » Mais je n'ai rien dit. Personne n'est propriétaire du ciel, des arbres. Personne ne peut s'approprier le cœur des oiseaux. Pourtant, étant humain et partiel, à mes propres succès, sans avoir aucune jalousie ou ressentiment pour les façons des autres, je crois que demain, je vais venir plus tôt. Bienveillance et compassion pour notre nature humaine et intérêt, aspiration pour ce qui est délivrance. Le Bouddha a employé trois mots pour dire la délivrance. La cessation, c'est-à-dire que nous arrêtons de nous laisser baloter sur cette rivière du « je veux, je ne veux pas ». Il y a quelque chose qui s'arrête. Il a employé le mot non-passion, c'est-à-dire que l'intensité n'est plus prioritaire. C'est l'équanimité qui prédomine, ou la sérénité. Et il a employé un mot intéressant, c'est le mot désenchantement. Nous arrêtons d'être enchantés par le monde conditionné. C'est comme si nous étions hypnotisés. Nous ne savons plus à quel monde nous appartenons. Nous avons oublié notre nature originelle. Et nous croyons que ce que nos six sens nous donnent, c'est tout ce qu'il y a. C'est terrible, hein? Ça, c'est le Kali Yuga. C'est Rudolf Steiner qui dit que le monde s'est tellement incarné dans la matière que maintenant nous sommes dans le Kali Yuga. Mais que ça va remonter. La conscience va retrouver une appartenance plus universelle où il y a tellement moins de souffrance d'une manière globale. Mais aujourd'hui, on est sacrément mal parti. Hein. Faut un petit peu qu'on fasse des efforts. Parce qu'il faut quand même avoir un corps humain pour faire tout ce travail. Ok, je vais finir avec une parole d'Eti Hillesum qui a vécu dans les camps de concentration, qui a choisi de ne pas s'enfuir pour aider les autres, et qui témoigne de cette compétence de la nature humaine de rester ancrée dans l'universel alors que les conditions extérieures deviennent plus qu'horribles. Et ça, ce sont des témoignages tellement précieux pour faire confiance à cette compétence à l'intérieur de nous-mêmes. Elle dit, en définitive, nous n'avons qu'un seul devoir moral, c'est de préserver de larges plages de paix à l'intérieur de nous-mêmes, une paix de plus en plus grande, et d'en faire profiter les autres. Et plus nous posséderons de paix en nous-mêmes, plus il y en aura dans ce monde agité. Et puisque désormais libre, je ne veux plus rien posséder, désormais tout m'appartient, et ma richesse intérieure est immense. Puisque désormais libre, je ne veux plus rien posséder, alors tout m'appartient et ma richesse intérieure est immense. Ça, c'est la vraie confiance. C'est beau. Et c'est possible. En tout cas, le Bouddha l'a dit. Et quand même, au fil des années, j'en fais l'expérience.